Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection.
Dude, I could be gaming.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de RNG. Vous êtes sur le 93.9 FM Radio Campus Paris. Salut Swill.
Salut Ulysse.
Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode de février, qui est un épisode un peu spécial.
Hors série.
Hors série, tout à fait. On dit à chaque fois que c'est un épisode un peu spécial, mais là, c'est vraiment le cas. Pourquoi c'est un épisode spécial ? Parce que c'est un épisode sur les 30 ans de PlayStation.
Jeux d'anniversaire.
Jeux d'anniversaire à PlayStation.
Le 3 décembre. Ils ont fêté leurs 30 ans le 3 décembre 2024.
Ah ouais, ok.
C'est ça.
La vache. Donc, en plus, on l'avait un peu vite fait commenter, enfin, survolé quand on a vu l'édition PS5 des 30 ans qui est sortie toute grise, toute belle. Et donc là, voilà, pour l'occasion, on s'est dit qu'on voulait faire une sorte de rétrospective et en fait de discussion un peu, pas critique, mais qui couvre vraiment la PlayStation depuis donc, ses débuts dans les années 90 jusqu'à maintenant. Et grosso merdo, je posais un peu la question de qu'est-ce que c'était PlayStation ? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Et est-ce qu'il y a encore du PlayStation de ses débuts dans ce qu'on voit dans la marque actuellement ? C'est ça, hein ?
Ouais, c'est ça. C'est vraiment une grosse rétrospective. On revient sur les hauts, les bas de la marque. Comment elle s'est mise du jour au lendemain à faire du jeu vidéo ? Parce qu'aujourd'hui, PlayStation est l'un des constructeurs les plus importants sur le marché. C'est à ce jour l'un, voire le peut-être le constructeur le plus important. Mais il n'était pas à la jeunesse du jeu vidéo. Nintendo est beaucoup plus vieux que PlayStation, en tout cas dans le secteur du JV. Donc on va essayer de comprendre pourquoi Sony, du jour au lendemain, se sont mis à faire des PlayStation. Ouais.
Je sais que du coup, c'est toi qui vas un peu attaquer le sujet. Et donc pour ça, on va commencer à parler avec la PlayStation 1. Donc là-dessus, je vais te laisser un peu poser le contexte.
Allons-y. Let's go. Moment storytelling. Let's go, guys. Ce qui est marrant avec Sony aujourd'hui, c'est que tout simplement, aujourd'hui, quand on pense Sony, on pense tout de suite à PlayStation. Ça, c'est clairement, c'est leur image de marque, clairement, c'est la console de jeux vidéo. Alors qu'on sait très bien qu'ils sont actifs clairement sur d'autres secteurs, que ce soit sur la musique, dans le cinéma, avec Sony Columbia Pictures, sur plein d'autres secteurs, la télévision, la high-tech, ce genre de choses. Mais à la base, Sony, c'est une entreprise japonaise, du coup, qui est née à Tokyo dans les années 50. Et qui, dès le début, était vraiment hyper, hyper actif sur le secteur de l'électronique. Et en fait, c'est une entreprise qui va vraiment rapidement se faire connaître grâce aux innovations qu'il y a eu en fait, dans l'électronique dans les années 70. Par exemple, Sony, ils ont quand même un palmarès assez balèze. C'est-à-dire que Sony va créer, par exemple, les premiers prototypes de cassettes vidéo, rien que ça. En 1979, ils vont être derrière le Walkman. Quand même, énorme invention dans le secteur du coup de la musique. Dans la photo aussi, par exemple, moi j'ai pris l'appareil photo analogique Mavica. Moi, je connais pas du tout. Moi, je m'y connais pas du tout en photo, mais peut-être que toi, Ulysse, ça te parle.
Non.
Et du coup, c'est un appareil photo qui est analogique, qui est arrivé sur le marché en 81, et en fait, qui fonctionnait avec des mini-disquettes. Et en fait, il était vraiment, vraiment en avance sur son temps, en fait, parce qu'il y avait des accessoires. Par exemple, il y a un accessoire que je trouve assez ouf. En fait, on pouvait partager ses photos via le réseau téléphonique de l'époque. Il n'y avait pas Internet, mais en fait, on pouvait quand même partager ses photos via le réseau téléphonique. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais pour vous montrer un peu que Sony était clairement un peu des savants fous. Ils étaient ultra novateurs dans les années 70, 80. Et en fait, ça va vraiment nourrir une image de marque assez forte chez Sony. Je veux dire, quand on pense souvent années 80, années 90, Sony fait un peu partie, on va dire, de cette écosystème, de cette culture un peu de la tech et tout qu'on peut retrouver à cette époque.
En fait, il représente un peu le côté high-tech japonais où on disait « Ah, le Japon est
très fallure.
Ouais, ça, ils sont en avance sur tout le monde. » C'est ça, ouais.
Mais tout ça pour vous dire en fait que économiquement, ça va bien. Sony va super bien. Et en fait, on peut se dire, le lien entre tech et électronique et jeux vidéo, le lien peut se faire assez facilement. Mais Sony refuse en fait. Pourquoi ? Parce qu'au début des années 80, le jeu vidéo a vraiment mauvaise presse. Le jeu vidéo sort d'une crise économique assez, assez sévère. On a Nintendo qui est présent dans les années 80 avec la Famicom. Mais même eux, ils parlent pas trop de jeux vidéo, ils parlent de système, de entertainment system.
C'est ça, la NES. Ouais, ouais, c'est le rapport un peu intéressant avec ce côté de la Nintendo, c'est qu'en effet, comme le jeu vidéo a mauvaise presse, c'est pas comme un truc de gamin ou juste que du divertissement bas de plafond, ils disent « Ok, on peut pas vendre ça comme un truc de jeu vidéo, donc la Famicom, c'est au Japon, ils savent pas, mais du coup, en France et en Europe, on va appeler ça la NES et la Super NES pour Nintendo Entertainment System. » Et c'est aussi pour ça qu'elle est vendue avec le jouet de Duck Hunt. Non, c'est plus une machine à jouer.
Ouais, voilà.
C'est pas du jeu vidéo tel que vous le pensez.
Ouais. Parce que voilà, le jeu vidéo, c'était pas trop ça au début des années 80. Du coup, Sony n'y met pas le nez. Et pourtant, c'est-à-dire que le lien pouvait se faire. Mais dans, du coup, ce contexte des années 80, il y a un mec qui travaille chez Sony, c'est un ingénieur, qui s'appelle Ken Kutaragi. Retenez ce prénom, c'est hyper important pour l'histoire de PlayStation. Tout simplement parce que ce mec, dans les années 80, je sors ça d'une interview, il racontait que quand il rentrait chez lui, il voyait sa fille jouer à la Famicom, la NES pour nous en Europe. Et du coup, il a toujours eu l'envie de travailler dans le secteur du jeu vidéo. Il s'est toujours dit qu'il y a un truc dans le jeu vidéo, il y a un futur. Il avait quand même un flair. Et en fait, ce mec-là, voilà, je pense qu'il était assez frustré de se dire de, voilà, je ne peux pas travailler sur du jeu vidéo chez Sony. Et en fait, il va voir que Nintendo cherchait quelqu'un pour travailler sur le processeur sonore de sa future console, okay, qui était la Super NES, du coup.
Ouais.
Et du coup, bah, Ken Kutaragi, il a accepté le défi, et sans le dire à Sony, en fait. Il est parti, voilà, en soum-soum, voilà, il est parti, voilà. Il a dit, non, mais je vais travailler dessus, tout ça. Et du coup, il est allé là-bas, et ça a marché, parce que du coup, littéralement, dans la Super NES, le processeur sonore qui est utilisé, c'est un processeur sonore indirectement de chez Sony, d'une certaine manière, parce que c'est un ingénieur de chez Sony. Et ça, c'est su. Et on peut se dire, bon, il va se faire virer, ça peut être vu comme de la trahison. Je veux dire, en plus, on est au Japon, voilà, les conditions, tout ça et tout, nan, c'est la galère. Mais il va quand même rester. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à trouver les raisons pour lesquelles il n'a pas été viré. Mais en tout cas, je ne sais pas, peut-être qu'il avait des amis haut placés, peut-être qu'il était très talentueux et Sony ne voulait pas se laisser passer un ingénieur comme lui, je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, ça, Sony n'a pas trop apprécié, mais on va dire qu'ils lui ont laissé un joker. Mais malgré ça, ça ne va pas se finir ici. Parce qu'en gros, Nintendo, du coup, pour la Super NES, ils voulaient un accessoire qui soit un lecteur de CD-ROM. La Super NES fonctionnait avec des cartouches. Mais ils voulaient un accessoire qui pouvait lire des CD. Et qui de mieux que pour travailler sur un accessoire qui lit des CD que littéralement le créateur du CD dans les années 80. Sony, bon, créateur du CD, c'est en fait plus une collaboration entre Sony et Philips. Dans les années 80, Philips, qui est une entreprise européenne, un peu une sorte de Sony européen, d'une certaine manière, ils travaillent vraiment sur le même secteur. Et du coup, de Sony et Philips est venu le CD. Aux années 80, le CD, c'est pas trop ça, c'est vraiment dans les années 90 que le CD va tout changer, surtout dans la musique et le jeu vidéo aussi,
oui,
clairement. Et du coup, voilà, Nintendo, ils sont en mode, eh, vas-y, on veut travailler avec Sony pour avoir un accessoire qui nous permet de lire des CD. Et Nintendo veut travailler avec Sony parce que, voilà, qui de mieux que ton voisin qui a littéralement inventé le CD, tu vois. Donc, Sony accepte, ils savent pas trop tout ça et tout, mais ils envoient Ken Kutaragi en mode, vas-y, t'as travaillé avec eux, on te fait confiance, vas-y. Et l'accessoire, il n'existe pas. C'est-à-dire, en gros, la relation entre... c'est-à-dire que l'accessoire était un lecteur CD, mais on était encore trop tôt pour vraiment qu'il y ait un accessoire qui puisse vraiment fonctionner. Et en fait, Nintendo va avoir le seum, clairement, va avoir le seum et vont, en fait, rompre leur relation avec Sony. Et en fait, ils vont aller voir Philips en mode, bon, on n'a pas réussi à créer un accessoire. C'était vraiment un problème technique à la base.
Ok, moi j'avais vu d'autres histoires.
Ah oui, il y a d'autres histoires. Après, il y a une histoire de contrat, tout ça, de licence et tout. Mais il y a vraiment un souci aussi autour de la technique. Et Nintendo va se dire, vas-y, on va aller travailler avec Philips. Et Philips, en gros, ils sont en mode, ils font un tapis rouge pour Nintendo, en mode, je vous laisse tout ça. Et donc, Sony, en plus, voilà, on est sur deux entreprises japonaises. Et c'est vraiment vu comme une forme de trahison de la part de Sony. Parce qu'ils sont en mode, pour eux, c'est vraiment un coup bas qui est fait par Nintendo. Et donc, je pense qu'il y a dû avoir une forme de frustration chez Sony, surtout chez Ken Kutaragi. Et surtout, voilà, avec des années à travailler, on va dire, sur un nouveau secteur pour Sony, qui est celui du jeu vidéo, il y a eu, je pense, de la connaissance qui s'est accumulée du côté de chez Sony, et ça a été, je pense, le déclic pour Sony de se dire, Eh, vas-y, les gars, fuck it, on fait une console de jeux vidéo, en fait.
Ouais.
On fait une console de jeux vidéo. Et on est, voilà, au début des années 90. Et il y a un nouveau, il y a un projet qui se lance, pardon, chez Sony. C'est le défi PlayStation. Mmh. C'est le défi PlayStation avec, à sa tête, Ken Kutaragi, du coup. On va sortir notre propre console de jeux vidéo. La PlayStation 1, du coup. La PlayStation 1. Et moi, c'est ça que je trouve incroyable avec cette console. C'est qu'en fait, bon, je romantise peut-être un peu le truc, mais indirectement, en fait, Nintendo a tellement été important dans la création de la PlayStation, en fait. Et à cette époque-là, du coup, on est en 93. Moi, avec mes recherches, ce qui était vraiment fou, c'est que on est une époque où Internet n'était pas encore vraiment là et tout. Ouais. Genre, pour t'informer, c'était vraiment les magazines. Donc, il y avait, on va dire, des rumeurs, voilà, qui couraient parmi les acteurs de l'industrie, en mode, ah, Sony apparemment veulent voilà, se lancer dans le jeu vidéo. Mais le problème, c'est que l'industrie des jeux vidéo était vraiment en place. À cette époque-là, on avait deux constructeurs qui étaient vraiment puissants. C'était d'un côté Nintendo et de l'autre Sega, le rouge contre le bleu, Mario Sonic, tout ça. Et il y avait vraiment un vrai challenge. Même si, bon, Sega commençait déjà à... Sur le milieu de la console, ils avaient du mal. Vraiment, Sega, sur le secteur sur lequel ils étaient très, très, très puissants, c'était vraiment l'arcade.
Oui.
Et l'arcade était vraiment, au début des années 90, vraiment très, très présent dans, on va dire, l'univers jeu vidéo. Les consoles n'étaient pas, on va dire, autant au centre qu'elles le sont aujourd'hui.
Non, non.
Et du coup, ce qui se passe, il y a un challenge qui va se mettre en place, vraiment un véritable fight entre le rookie Sony, qui a quand même une force de frappe. Sony, c'est quand même une entreprise très puissante, mais on pouvait avoir des doutes parce que c'est un nouvel acteur dans l'industrie, on ne sait pas de quelle manière ils vont réussir à s'introduire. Sega, c'est un vétéran, mais le truc, c'est qu'il commence un peu à être essoufflé. Il y a des batailles entre le Sega, le pôle aux États-Unis et le pôle au Japon, où t'en as un qui est plus du côté... je sais que les États-Unis étaient vraiment en mode il faut investir sur la console, tout ça et tout.
Ouais. La Mega Drive,
tout ça et tout. Alors que le Japon est en mode non, mais l'arcade, c'est bien, tout ça et tout. Donc, c'est un peu la galère. Donc, il y a un vrai challenge. Et Nintendo est un peu de son côté. Était déjà, on va dire, un peu voilà, sur un nuage. Oui. Un peu comme aujourd'hui, en mode ouais, faites vos trucs, nous, on vous regarde faire. Et l'enjeu de ces générations de consoles, que va être la cinquième génération de consoles, la cinquième, du coup, la PlayStation 1, la Sega Saturn et la Nintendo 64.
Ouais.
L'enjeu technique, c'est la 3D. C'est vraiment la 3D et c'est peut-être... Comment illustrer l'enjeu de la 3D à quelqu'un qui ne connaît pas trop le jeu vidéo ? C'est vraiment...
En vrai, pour moi, l'enjeu de la 3D, j'avais noté un truc par rapport à ça, c'est que déjà, la PS1, l'argument de vente, je prends un peu d'avance, mais c'était l'arcade à la maison.
C'est ça.
Et que les jeux d'arcade, c'était... Pourquoi est-ce que ça marchait autant, les salles d'arcade ? C'est parce que les jeux les plus beaux y étaient. C'est pour ça que... Il y a un rapport où quand vous rentrez chez vous pour dire... si vous alliez dans une salle d'arcade pour dire à votre mère « Maman, je peux jouer à Pac-Man !» Elle dit « Non, il y a Pac-Man à la maison. » Et Pac-Man à la maison, c'était sur une Atari 2600. Le jeu était claqué, il ressemblait pas du tout à la version arcade. Pareil pour des jeux du style Daytona ou autre, où visuellement, il n'y avait pas d'égal, en fait, sur une machine de salon. Et du coup, la PlayStation, elle va arriver un peu avec cette promesse-là, et elle arrive à peu près en même temps qu'un film qui a énormément cartonné. Et ça, j'ai trouvé l'info parce qu'il y a une démo technique. Et c'est Jurassic Park, voilà, ça me fait des grands signes. Jurassic Park, c'est les premiers effets spéciaux en 3D qui vraiment mettent une baffe à tout le monde. C'est le blockbuster où encore pendant, je pense, 20 ans, aujourd'hui, mes parents, je me rappelle, je me disais, mais ça vieillit pas en fait, que ça vieillit un peu maintenant. Mais quand on voit la première apparition du coup d'un... le T-Rex, c'est même le dino qui mange
de l'herbe là.
Le Diplodocus.
Ah oui.
Quand on voit le Diplodocus apparaître avec la musique, c'est un plan qui est incroyable. Mais visuellement, on n'avait jamais vu ça au cinéma. Et donc, l'engouement de la 3D, c'est ça. C'est se dire, oh mon Dieu, on peut imaginer des mondes qu'on n'avait jamais vu, qu'on ne voyait que en rêve, en fait.
Et aujourd'hui, c'est très dur à faire parce que techniquement, on est tellement... Aujourd'hui, voilà, les dernières consoles, les PS5, Xbox Series, on peut faire des trucs de ouf.
Ouais.
Et la technique, aujourd'hui, elle est un peu... Je ne dis pas qu'elle a atteint une forme de plafond de verre, mais on est sur d'autres secteurs que vraiment... Il n'y aura plus vraiment de gap générationnel comme l'a été la 3D. Et c'est vraiment l'enjeu de cette génération-là. C'est la 3D arrive sur nos consoles. Et c'est hyper, hyper excitant pour l'époque. C'est vraiment un moment majeur dans l'histoire du jeu vidéo. Et donc, la PlayStation 1 arrive en 94. Il y a un vrai challenge avec la Saturn. Et la PlayStation 1, je crois qu'il y avait un truc marketing assez rigolo. C'est que du coup, elle sort le 3 décembre 1994. Donc, si vous mettez la date, ça fait, à l'américaine, c'est en mode 12, ouais. Le mois, slash 3, ça faisait 1, 2, 3, et c'était le truc en mode 1, 2, 3, PlayStation. Okay. 1, 2, 3, PlayStation. Et il y avait tout ce truc-là, et Moi, je m'étais vraiment intéressé sur la manière dont était perçu Sony avant que la console arrive. Et il y avait vraiment d'énormes doutes sur la capacité à Sony à se faire une place dans l'industrie.
Okay.
Et aussi, d'un point de vue technique aussi, on ne savait pas ce qu'elle avait dans le ventre, cette console-là. Et j'ai vu en fait des anecdotes du coup, d'interviews de développeurs qui étaient dans les années 90, qui ont été invités par Sony, qui ont du coup essayé la PlayStation avec la démo technique dont tu parlais avec
Tyrannosaur. Demo One.
Et qui était en fait voilà, une sorte de démo. En fait, vous voyez un Tyrannosaur en 3D, qu'on voit dans Astro Playroom et Astrobot et tout, qui voilà, était en 3D, une sorte d'animation où il courait, on voyait ses dents. C'était... Mais pour l'époque, aujourd'hui, vous le voyez, ça ne vous fait rien, encore heureux. Mais à l'époque, voir ça sur une console, c'est impossible.
Les quelques essais qu'il y a eu de 3D, je crois qu'il y en avait eu un petit peu avec des Star Fox, des trucs comme ça, avec des cartouches spéciales pour le rendu 3D et d'autres choses avec des lignes, etc. Mais la 3D aussi aboutie avec des polygones. Enfin ouais, c'était un truc en temps réel où on se dit, ok, là, pour le coup, c'est fou.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que Sony était un peu un éditeur avant d'être un constructeur. Ils avaient déjà travaillé sur l'édition de... Parce que Sony était un acteur vraiment ultra présent dans l'industrie du disque. Forcément, ils ont inventé le disque. C'est pour ça qu'ils ont créé leur label de Sony Music, qui est hyper, hyper influent. Eux, ils veulent juste vendre des disques. Et c'est ça le truc, c'est qu'ils ont la main mise sur le truc. Ils veulent trouver des moyens pour que les usines produisent plus de disques. Tu vois. Donc, forcément, il leur fallait du software. Mais Sonic n'était pas Sega ou Nintendo. Ils n'avaient pas, on va dire, ce bagage, ce panthéon. Je veux dire, Nintendo, ils arrivent en 80. Bonjour, on a Mario, on a Zelda, on a Metroid, on a Dragon Quest. Et du coup, t'as tout ça. Donc forcément, ils arrivent dans l'industrie, ils ont déjà toutes ces licences-là. Et Nintendo, je veux dire, ça a toujours été la même recette, ressortir des consoles avec les mêmes jeux. Bon, ça se renouvelle, bien évidemment. Sega, c'est Sonic. C'est à l'époque, surtout à l'arcade, c'est Virtua Fighter. Ouais. Tout ça, c'est hyper, hyper... Ils ont tout ça. Sony n'a rien, mais ils ont en tout cas... Tu veux dire quelque chose ?
Non, justement, je vais rebondir là-dessus parce que moi, ce que j'avais noté, c'est que du coup, la PS1, il y avait cet enjeu-là de convaincre les studios et développeurs de venir sur la machine.
Exactement.
Dans l'idée de rentrer dans l'aventure de la 3D.
C'est ça. Et du coup, ils vont aller voir du coup des développeurs qui étaient très, très, très... surtout présents dans le niveau de l'arcade. Namco, aujourd'hui, qu'on connaît pour Namco Bandai, qui a été la fusion entre l'entreprise Bandai et Namco, mais à l'époque, c'était juste Namco. Namco était vraiment connu à l'époque pour son jeu Ridge Racer sur arcade. Et à ce jour, il faut savoir que tous les jeux PlayStation sont notés. Il y a une sorte de... On va dire le label en mode, c'est le jeu PlayStation 001. Et à ce jour, le tout premier jeu PlayStation à être sorti sur une console, c'est Ridge Racer de Namco. C'est le jeu 001. C'est le premier jeu de l'histoire de la PlayStation. Et quel jeu ? Quel jeu ? Chez Culis, je l'adore.
On avait parlé dans les jeux de course, vraiment.
Voilà, c'est un monument historique, que ce soit au niveau de l'arcade et de la console. Et là, pour la console, genre, c'est littéralement le premier jeu de la PlayStation. Cette phrase, elle envoie de fou. Genre, c'est un truc de malade. Et ça a été un vrai challenge parce que Ridge Racer, voilà, ça existait déjà sur arcade. Et en fait, l'enjeu pour Namco à cette époque-là, c'était comment on adapte notre bébé là, de l'arcade, on l'adapte sur une console de salon qui est beaucoup plus petite. Comment on fait pour y jouer sur manette, c'est un travail d'adaptation. Et c'est de la magie noire. C'est de la magie noire parce que Ridge Racer, à cette époque-là, avait un concurrent, c'est Daytona, qu'on va voir arriver sur Saturn aussi. Tous les deux des jeux de course. Hein. Hyper impressionnant pour l'époque, en 60 images par seconde. Et quand on compare du coup Ridge Racer sur PlayStation et Daytona sur Saturn, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'en termes de sacrifice, forcément, une borne d'arcade, elle est énorme, elle a beaucoup plus de puissance brute. Et ça a été un vrai challenge pour Namco d'adapter son jeu sur une si petite console. Mais encore aujourd'hui, jouer à Ridge Racer sur PS1, ça passe, tu vois.
Ouais,
genre, c'est en 60 FPS, les sensations, elles sont bonnes, le menu est clean, genre une musique de fou, genre c'est encore une expérience assez folle, le Ridge Racer sur PS1.
Ouais.
Et on parlera donc de Turismo peut-être plus tard, mais c'est pour montrer en fait comment la PS1 était vraiment un bijou technologique pour son époque. Sony, voilà, on vous l'a dit, ils ont des années et des années, des décennies de... C'est-à-dire les mecs, voilà, ils ont été novateurs sur énormément de trucs. Là, forcément, ils font une console qui est pensée pour les développeurs et je pense que ça a été peut-être le pari le plus important pris par Sony, c'est-à-dire faire une console qui soit flexible pour les développeurs. Ouais. Et Sony avait vraiment, on va dire, ce côté humble, je pense, à ce moment-là, de se dire, on ne sait pas faire du jeu vidéo, mais on sait faire des consoles. Et il y a un laisser, c'est-à-dire il y a une... Il y a ce côté de, il laisse carte blanche à Capcom qui va faire Resident Evil Squaresoft, bonjour Squaresoft, ça vous dit, on fait des petits jeux et ça crée des relations. Ouais. Aujourd'hui, les relations entre Sony et Capcom, Sony et Square Enix maintenant aujourd'hui, Sony et Namco, on le voit, et From Software aussi. Parce que le tout premier jeu From Software est sorti sur PS1, c'est l'un des premiers jeux. J'ai oublié comment il s'appelle ce jeu d'ailleurs. Oh purée, bon c'est pas grave. Et du coup, et c'est pour montrer, voilà, ils ont réussi à créer des relations hyper fortes avec cette console-là. En fait, ça a été un enjeu majeur et je pense que ils ont... On ne pouvait pas rêver mieux pour Sony, c'est-à-dire vraiment, il y avait d'énormes doutes. Et arriver avec une console qui a tout de suite un catalogue puissant, une flexibilité en termes de technique, de hardware, où vraiment les développeurs, ça a été un plaisir pour eux, comparé à la Saturn qui était beaucoup plus complexe, techniquement parlant.
Bah, moi, j'avais noté par rapport à la Saturn qu'en soi, c'est ça, c'était une console aussi 32 bits, qui pouvait faire aussi bien que la PlayStation 1, et en fait, les développeurs se sont cassés un peu les dents dessus.
C'est ça.
Pour pas mal de choses là comme ça, moi, je sais que j'avais écouté, du coup, là, c'était un épisode de Click. Pour les 26 ans de PlayStation, ils en parlaient. Et c'était hyper intéressant. Il y avait, du coup, trois interlocuteurs. Et ils disaient, ouais, genre que... Alors même que bah, t'as des jeux comme Tomb Raider ou Resident Evil qui sont sortis, par exemple, bah, sur la Saturn. Tomb Raider, hein, voilà, c'est Saturn. Resident Evil, c'est PlayStation, mais ça sort, je crois, c'est 6 mois ou un an après sur Saturn. Bah, en fait, malgré tout, on pense pas jeu multiplateforme. On se dit, non, c'est un jeu PlayStation.
C'est un jeu PlayStation.
Par exemple, que la Saturn, elle a écrasé tout simplement, oui, par
Sony. C'était un raz-de-marée, surtout que la Saturn coûtait 100€ plus cher au lancement, est sortie plus tard.
Ouais.
Donc forcément, et aussi, ce qui est hyper important, je pense que historiquement, rappeler ça aux gens qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est quelque chose d'international.
Ouais.
Dans les années 90, le jeu vidéo, c'est le Japon. Vraiment, le jeu vidéo, c'est le Japon. C'est-à-dire quand une console sortait au Japon, elle sortait beaucoup plus tard en Europe, ouais, et aux États-Unis. C'était le Japon qui donnait le là à l'industrie. Tu vois, vraiment, c'était la terre du jeu vidéo. Mmh. Et alors que quand on compare, par exemple, il me semble que c'était la PS5 ou c'était la PS4 qui était, par exemple, ça a été un moment hyper fort au Japon. C'est que la PS4 était, je crois, sortie quelques semaines plus tard au Japon plutôt qu'en Europe. Je crois que c'était une semaine.
Ah, ok.
Mais tu vois, genre, c'est pour montrer comment les rapports de force sont changés. Et que historiquement, on est vraiment dans une ère où le Japon est vraiment, c'est la terre, c'est Jérusalem du jeu vidéo. Et du coup, la PlayStation 1, voilà, c'est ça. C'est un design que je trouve aujourd'hui parfait. Il est vraiment dans ce délire années 90, ce côté gris, le logo PlayStation coloré.
Ouais.
Le seul bémol, moi, je dirais, je trouve, les cartes mémoire, c'était un vrai souci, parce que ça veut dire, OK, la console était vendue moins cher, mais les cartes mémoire, en plus, elles n'avaient pas une capacité de stockage de dingue. Pour sauvegarder, en gros, il fallait, voilà, du coup, aujourd'hui, ça se fait plus. Ouais. Merci, on a des SSD, on a des HDD, tout ça, ça va super, on n'a pas trop de soucis. À l'époque, il fallait acheter des cartes mémoire et elles s'usaient assez rapidement, donc il fallait en racheter, donc c'était vraiment un peu comme des piles, tu vois. Sauf si tu étais un fou et t'arrivais à finir tes jeux en one shot, mais bon, à l'époque, bonne chance. Mais voilà, du coup, la PS1, c'est ça, c'est... Je crois que c'est 104 millions d'exemplaires vendus, je vous le dire tout de suite. Ouais, c'est ça, c'est 104 millions d'exemplaires vendus. C'est un raz-de-marée, des jeux absolument fous. Pour moi, vraiment, ce moment-là de la 3D, ça reconfigure vraiment la manière dont on conçoit le jeu vidéo. Et le catalogue de la PS1, c'est que... On va parler de la PS2 après, et l'une de ses forces, la PS2, c'est clairement son catalogue. Mais la PS1 aussi, elle a un catalogue qui est tellement, je trouve, unique, parce qu'on a l'arrivée de la 3D. On est arrivé de la 3D et en fait, on repense totalement la manière dont on joue aux jeux vidéo pour les développeurs. Pour eux, je pense que c'est un choc.
Oui, parce que c'est comme une nouvelle langue. C'est qu'avant ça, on était sur des jeux 2D. Avec l'arcade, on avait de la 3D. Mais là, d'un coup, vraiment, on ouvre une nouvelle dimension. Et c'est lié de, OK, comment on se déplace la caméra, comment on fait pour la manier. On en parlait dans le Survival Horror. Mais s'il y a un mur, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle traverse le mur? Est-ce qu'elle se bloque? En fait, c'est vraiment une nouvelle grammaire à appréhender. Et c'est pour ça que je trouve que ouais, c'est une génération assez folle. Parce que moi, je me suis noté juste trois jeux, mais juste Driver, Crash Bandicoot et Ridge Racer.
Amen.
C'est vraiment genre... Il y en a deux, c'est des jeux de course. C'est vraiment important sur la 3D et la façon dont le jeu vidéo a évolué. Mais ouais, genre Crash Bandicoot, c'est le jeu, c'est la mascotte de PlayStation. Que PlayStation voulait mettre comme son Mario ou son Sonic. Il est plus trop présent, mais à la base, c'est ça.
Il est dans nos cœurs.
Donc ouais.
Non, c'est ça. C'est du coup voilà, un catalogue absolument unique. Derrière, c'est-à-dire le raz-de-marée qui a été la PlayStation 1, il y a eu la 64 qui est arrivée beaucoup plus tard. 64, il y a eu... on va pas trop en parler, mais ça a été un catalogue vraiment aussi assez unique. C'est pas la console... En termes d'image, elle est très...
En termes d'image, non, elle est dans tout. En fait, je pense qu'il y a ce truc-là aussi où là, on peut presque déjà faire le constat que la PlayStation 1, on va le faire avec la PS2 et 3, mais c'est que surtout la 2. En fait, oui, c'est la marque Moi, il y a un truc que je me suis noté. Il y avait un slogan qu'avait Sony sur justement les appareils photo, les caméscopes, tout. C'était « J'en ai rêvé, Sony l'a fait ». Ce slogan-là, déjà, il est incroyable, mais vraiment cette idée-là de « Ouais, c'est une image qui a un prestige, il y a un côté high-tech, comme l'a dit Swill, où tu penses Sony, tu penses à quelque chose qui fait adulte, qui fait genre… En fait, il y a un côté Apple, ni… Oui, j'allais dire ça, j'allais dire Apple. C'est vraiment, c'est un objet qu'on veut. C'est au-delà même du catalogue de jeux, l'objet, il a un côté ouais, prestige.
Et c'est quelque chose qu'ils arrivent à retranscrire dans leurs jeux vidéo. Gran Turismo, c'est PlayStation. C'est quelque chose dont ils arrivent à avoir ce côté classe, ce côté… et qu'on retrouve même dans… tu sais, genre dans leurs appareils high-tech, le fait de… À cette époque-là, le fait d'avoir, par exemple, un système son, c'est une chaîne… Sony, c'était gage de qualité, tu vois. Alors qu'il y avait des gros concurrents… Par exemple, dans le secteur de la vidéo, on avait Canon, on avait les Japonais. Dans les années 90, il y avait vraiment énormément d'entreprises.
Oui.
Tout ça et tout. Mais Sony, il y avait quand même cette image de « Ouais, si t'as un appareil Sony, c'est que… »
La qualité. Voilà.
Donc voilà, si tu veux peut-être lancer le… On le voyait venir peut-être à l'époque, le raz-de-marée PlayStation 2.
Alors ça, la PS2, ouais, moi quand j'ai fait du coup mes recherches là-dessus, parce que la PS2, c'est marrant, j'en ai eu une chez moi, mais ça m'intéressait pas des masses. Chez moi, on était vraiment sur l'Xbox, c'est ça qui est très drôle. Waouh! Vraiment, ouais, la PS2, quand elle était chez moi, elle m'intriguait, mais du coup, j'ai joué un tout petit peu. Je vous promets Spider-Man, ce qui est intéressant vu qu'on voit les rapports entre Spider-Man et Sony. Mais du coup, ça n'a jamais été une console de cœur. Mais du coup, en refaisant mes recherches, c'est vraiment juste passionnant de s'intéresser à la console parce que c'est peut-être. C'est-à-dire que c'est l'une, en tout cas, des meilleures consoles jamais faites. En termes de conception pure, en termes de hardware pure, elle est brillante. Vraiment, il y a un côté, du coup, c'est. Ken Kutaragi, comme pour la PS1, du coup, qu'il a manufacturé. Et donc, pour le contexte, on a donc la Dreamcast, qui est l'ultime bafouille de Sega pour rivaliser avec Nintendo. Mais elle aura vécu que 3 ans. Voilà. Elle aura eu une espérance de vie de 3-4 ans parce que la PS2 est arrivée. En fait, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, donc, Sony sort sur un PlayStation 2 en 98 au Japon. C'est la Disney. Et donc, c'est en 99 en France. Et c'est ça, ouais. Sony annonce une nouvelle console. Je me suis noté en mars 99. D'un an avant sa sortie, d'accord. Et donc, même s'il y avait la Dreamcast déjà, en fait, les gens ils vont attendre la PS2, ils vont pas l'acheter à Noël. En fait, il y a un côté où la Dreamcast, les gens se disent ouais, elle est là, mais ouais, je veux voir la PS2, je veux voir ce que ça va donner. Et la promesse de la PS2, déjà, c'est le DVD. Vraiment, genre là où la PS1 c'était le CD, là ça va être le DVD. Donc, la question c'était bah, pourquoi une PS2 plutôt que la Dreamcast. Déjà, il y a cet élément multimédia, et puis il y a les licences en fait. Et genre sur Dreamcast, je me suis noté qu'il y avait Sega GT. Mais on n'en a absolument rien à branler du concurrent de Sega.
Il y avait Virtua Fighter.
Quand t'as Gran Turismo, déjà t'as mis une claque, envie de jouer à Sega GT, tu veux jouer à Gran Turismo et à la suite de Gran Turismo. Autre argument, elle était rétrocompatible avec la PS1, qui était malin parce que à la sortie de la PS2, il n'y avait pas encore de jeu, vraiment, il y avait un peu de titres vraiment intéressants. Je suis noté qu'en fait, il y avait genre Tekken et SSX, je sais quel truc.
Qui n'ont pas
été trop marquants. C'est des licences marquantes, mais ce n'est pas des jeux qui sont très marquants dans leur licence. Par contre, voilà, quand on attend un an, déjà, on commence avec Devil May Cry, Onimusha, et il y a un moment donné, je vais en parler, mais il y a un tunnel absolument fou. Mais du coup, donc 2001, Sega arrête les consoles et devient full éditeur. Je pense qu'il y a un autre constructeur qui va rejoindre ce modèle-là dans pas longtemps, mais on en parlera dans un autre épisode.
John Microsoft.
Et voilà, donc pour Sega, c'est un peu triste parce que moi, un des papas de jeux vidéo créateurs que j'aimais normalement, c'est Yu Suzuki, qui a fait donc Virtua Fighter, Ace Warrior, Outrun, et donc Shenmue 1 et 2, qui de base étaient prévus comme une trilogie. Mais la PlayStation écrase tellement tout que c'est genre, get the fuck out, la Dreamcast, on l'arrête là, hop, et le plan s'arrête. Shenmue 3 arrivera genre 15 ans plus tard, dans l'état qu'on connaît. Mais donc, la PS2, si elle marche aussi bien, au-delà du côté, mais elle peut lire des DVD, des CD et tout. Et elle a un moteur graphique, je crois que Emotion Core quelque chose.
Ouais, ils mettaient des mots de ouf.
C'est ça. L'idée, c'est qu'elle a un côté, cool. Vraiment, c'est. Moi, j'avais regardé un peu le côté marketing où les musiciens donc, de chez Sony, le label Sony Music, en avaient eu reçu. Il la mettait partout sur les plateaux télé. Il y avait eu. Ça, je l'ai entendu du coup sur le plateau de Click. Il disait qu'apparemment, il y avait eu des rumeurs comme quoi elle était tellement puissante qu'elle pouvait détourner des missiles. Littéralement, c'est un missile dans le salon. Donc en fait, elle avait cette image absolument incroyable.
En termes d'esthétique aujourd'hui, il y a une nostalgie de ce début années 2000, un peu Y2K. Nous, notre génération, je veux dire, on est nés là-dedans, mais aujourd'hui, on le voit avec un peu une forme de nostalgie, tout ça et tout, et on est vraiment très sensible à ce marketing-là.
Non, mais c'est ça. Et donc, elle avait vraiment comme la PS1, mais elle avait ce prestige en plus. Vraiment, elle débarque avec un marché qui est comme un peu déjà conquis, et elle enfonce le clou. Et en fait, la PS2, c'est aussi la promesse de jeu aussi beau que les cinématiques. Et avant ça, on avait des cinématiques très belles, des jeux un peu moins, les jeux aussi, on avait un peu marre. Et d'un coup, on arrive, on a des jeux avec de la 3D, genre hyper raffiné.
FF10.
Voilà, c'est ça. Et pour parler un peu de l'engouement, et peut-être d'abord du côté graphisme, moi, il y a un jeu que je me suis pris, que je vais prendre l'exemple, qui était, du coup, il y a eu une démo qui s'appelle de Gran Turismo, qui s'appelle GT 2000, qui était juste Gran Turismo 1 avec quelques polygones en plus, des petits FM et tout. Et chaque Gran Turismo a un peu fait ça pour annoncer la console suivante. C'était une version un peu améliorée du précédent, pas très étonnante. Donc, il y a eu GT 2000, c'était une démo bof, un argument même qui a été utilisé par des joueurs pour dire « Non, mais la console, elle est surcotée, et du coup, c'est pas une grosse évolution. » Donc, en fait, vient du coup GT3 Aspect, qui est là, je pense, c'est ce que estime John Lineman de Digital Foundry, qui est le plus gros bon générationnel qu'on a vu en termes de graphisme. Et donc, GT2 et GT3,
c'est... Il me semble que c'est le jeu le plus vendu sur PlayStation 2.
Sur PlayStation 2, le jeu le plus vendu, c'est San Andreas.
Ah oui, merde. Ouais, forcément, ben oui, j'ai oublié Rockstar.
C'est
vrai que Gran Turismo est pas loin.
Genre. Mais GT3, visuellement, en termes de reflets, de polygones, il y a 20 à 30 fois plus de polygones que sur PlayStation 1, en termes de densité d'image et de résolution. C'est fou.
Du coup, il n'y a pas besoin de zoomer sur l'image pour vraiment voir.
Et du coup, ouais, le jeu prend en 480p, mais tu vois encore des images maintenant. Je pense que si on les voit sur un CRT, vraiment un écran pensé pour, mais c'est somptueux. Visuellement, c'est tellement cohérent. Donc, tu avais moins de pistes et de voitures en contrepartie. Mais ouais, le jeu est dingue. Et il faut se dire que donc, dans les mois qui ont suivi ça, il y a eu donc
MGS2, Devil May Cry,
Metal Gear Solid,
ouais, si jamais,
ICO,
donc de Udo...
Umetoweda,
merci. GTA 3, Silent Hill 2, Jack et Dexter et FF10.
Et non, du coup, c'est vraiment quand on voit le catalogue avec Jackal, on se dit, mais c'est absolument dingue. Et de toute façon, même sans ces jeux-là, les gens voulaient la console. Moi, je me suis noté, c'est donc le 4 mars 2000, il y a eu 600 000 consoles vendues en un seul jour au Japon. Et en fait, Sony maîtrisait même la manufacture et les composants de la console. Ça fait qu'il y a eu pas mal de refresh apparemment au niveau des composants. Mais dire qu'ils faisaient une console, d'habitude, on se dit, ah, le hardware, c'est là où les constructeurs vont vendre à perte pour après se refaire sur les jeux. Avec la PS2, Sony était tellement à mainmise sur les composants de A à Z, comme, on perd pas trop d'argent en fait, presque on en gagne un peu plus. C'est se dire à quel point ce paradigme, on l'a jamais retrouvé.
Non, c'est une anomalie.
C'est une folie. Et genre, en France, je me suis noté, ça, ils en parlaient, c'était en France, il y a eu, comment ça s'appelle, le Virgin des Champs-Elysées.
Ah, mais ça, j'avais vu des images.
J'avais vu des images aussi, ouais, les gens qui se piétinent pour avoir la console. C'était un événement, mais fou. C'est-à-dire que vraiment, les gens faisaient la queue et se bousculaient pour avoir une PS2. On était à ce niveau de folie, quoi, donc...
Ça ne t'est jamais revu. Hein,
c'est ça. Vraiment. Donc, après, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais du coup, la GameCube, la Xbox, oui, c'est cool. »
C'était des bonnes consoles, mais c'est ça le pire, c'est que la concurrence... C'est-à-dire que Sony était quand même face à une concurrence qui était solide. Techniquement parlant, la GameCube était supérieure. On le voyait, par exemple, Resident Evil 4, c'est toujours la muse sur ce sujet-là. C'est-à-dire que RE4 sur GameCube mettait à l'amende visuellement la version PS2. Mais c'est pas la question. Les gens avaient des...
Même le Xbox, j'ai regardé, elle est toujours deux ou trois fois plus puissante. Enfin, vraiment, c'était vraiment un monstre, la Xbox. La première Xbox, c'était vraiment un monstre de puissance, même de technologie. Et il y avait Halo. Donc oui, il y a des jeux qui ont marché même sur GameCube, tout le monde le sait. Mais en fait, c'est deux consoles qui sont un peu à oublier, dans le sens où en fait, Sony domine la génération de loin, quoi. C'est que 2001, 2006, 2007, ouais, genre, ces consoles-là, elles ont arrêté leur production. C'est-à-dire que sur Xbox et GameCube, on n'a plus de jeux après 2007. Par contre, sur PS2, pendant encore 7 ans, au moins 2012-2013, on en parlait, a encore eu des jeux sur PS2 qui sortaient.
Et c'est pour ça qu'à ce jour, la PlayStation 2 est, à date de mi-février 2025, est encore la console la plus vendue de tous les temps.
Ouais.
Avant de se faire dépasser, je pense, par la Nintendo Switch.
Ouais, parce qu'il y a un peu un côté Pelé qui gonfle ses chiens.
Ouais. Pour chaque PS2 vendu, il y a un but de Pelé qui est retrouvé.
Je suis en mode, ouais, ok, si vous voulez.
Ne quittez pas. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. Vous écoutez RNG.
Mais voilà, du coup, dans la PS2, c'est vraiment l'âge d'or de PlayStation. C'est la console qui prend comme des pains, comme des petits pains, et ça vraiment ça assoit un peu une forme de dominance. Et après bien la PS3, et ça, je veux bien amorcer.
J'ai même envie de dire, pour avancer la genre, c'est-à-dire que pour moi, vraiment, la PS2 est dans une continuité de la PS1, où j'ai envie de dire,
ouais,
PlayStation est sur un nuage,
oui, oui.
94 à 2007. Et ça, vraiment, pour dans l'histoire du jeu vidéo, avoir un prime de cette longueur-là,
ouais, c'est vrai,
est énorme, vraiment. C'est-à-dire, pendant, et c'est à ce moment-là que, du coup, Sony, on va dire, a vraiment mis son image de marque, surtout en Europe. Vraiment. C'est-à-dire que Xbox, quand Xbox est arrivé dans les années 2000 aux États-Unis, il y avait un challenge aux États-Unis de qui du Sony japonais ou du Xbox américain allait gagner la bataille aux States. En Europe, c'était fini. Et encore aujourd'hui, Sony domine vraiment le marché.
Bah, ce qui est amusant à voir, c'est que la génération PS3, c'est sûrement la pire période pour Sony. La PS3, en gros, moi je me suis noté, c'est là où il y a Sony arrogant se galvanise. Il y a vraiment un côté où, en fait, la PS1, PS2, en 2005, hein, quand elle s'était annoncée, elle cumulait 190 millions de ventes. Du coup, il y a la PSP qui sort un an avant, qui joue de console.
Ouais,
la PSP, c'est super. Oh, on n'en parle même pas trop, mais c'est super,
c'est
la
trop
PSP.
Bien.
Vraiment, et donc il y a l'E3 2005 qui arrive. Et l'E3 2005, c'est compliqué parce que il y a 42... Je me suis refait là, l'E3 2005 et 2006. 2005, tu as 42 minutes de diapositives. Vraiment, on dirait une conférence d'investisseurs, de blabla, de démo technique. Il n'y a pas vraiment de jeu.
Le gaming moderne
Bon, d'accord, il n'y a pas trop de jeux, c'est un peu chiant. Mais il y a des caméos. Tu as des jeux qui apparaissent par-ci, par-là. Tout ce qui est promis, je crois que c'est vraiment le dernier quart d'heure de la conférence où tu vois une avalanche de jeux défiler. C'est, on n'a jamais vu ça en fait. Visuellement, Xbox avait déjà fait sa conférence, ils étaient plus timides et la réception elle était un peu plus mitigée parce que entre la Xbox 360 et la Xbox première du nom, je pense, ouais, il y a une évolution, mais c'était pas taper le cul par terre, ça va.
On attendait surtout Sony.
Alors que Sony, en fait, ils viennent et ils promettent Monts et Merveilles, et je vous le spoil tout de suite, c'était blabla.
C'est joli.
Et donc, ils jouent le côté le Blu-ray, côté transmédia. Ils montrent du coup Killzone 2, qui est une. Comment s'appelle ça? Target rendering, c'est-à-dire que vraiment c'est ce que les développeurs du coup qui ont fait.
Que le jeu ressemble à ça, genre ils veulent que le.
Guerilla, eux qui ont d'Hollandais, ça en interne, ils ont dit voilà, on voudrait que le jeu ressemble à ça, c'est ce qu'on vise. Ça va pas ressembler à ça, mais on vise ça. Et Sony en fait l'a mis dans leur présentation. Donc c'est pas du tout du temps réel, c'est du pré-rendu. Et quand on voit encore vraiment taper Killzone 2 E3 2005, regardez ces images-là, dites-vous que c'était il y a 20 ans. C'est fou parce qu'encore même maintenant, il n'y a pas de jeu aussi bien animé en fait. Et on te dit, c'est du gameplay. Donc, c'est vraiment dingue. Donc, ils enchaînent comme ça, plein de présentations, mais ils sont folles. Ils montrent un jeu de Rockstar qui se passerait dans une forme de western.
Je ne connais pas.
Et il n'y a pas de nom dessus, il y a juste un logo R en disant, ah, c'est un petit jeu qui est préparé. Donc, le premier teaser de Red Dead 1 avec le moteur Rage. Pas mal, je trouve ça fou. Et à côté, vraiment, c'est le côté, c'est la console de Spider-Man. C'est-à-dire que sur les diamants pour la 1080p VS 480p, on vous montre Spider-Man hyper grand en mode. Enfin, plus grand.
Parce qu'on était vraiment dans le contexte Spider-Man de Sam Raimi.
La trilogie qui marche. Donc, pour la modélisation 3D, on voit Alfred Molina qui est modélisé avec de la lumière sur le plateau. Pareil pour sur Gran Turismo, on voit Spider-Man. Genre, ils ont fait un extrait de Spider-Man 2 qu'ils ont mélangé avec Gran Turismo où genre, ils sauvent les enfants qui vont se faire écraser par une voiture de GT. Ça va pas. Et c'est genre, tout est un prétexte pour mettre Spider-Man quelque part.
Ça fait vendre. Hein.
Mais ouais, ça fait vendre. Et le pire, c'est que la console, elle est un peu prometteuse sur des aspects. On apprend que c'est Nvidia qui va faire la carte graphique. Il y aura le moteur physics. Donc, ils font plein de petites démos avec des canards, de l'eau, des trucs hyper ouf. Et donc, là, tout le monde est un petit peu hypé de ouf, même si la conférence, elle est mal rythmée. La 360 arrive entre temps. Donc là, c'est genre début 2006 ou fin 2005. Et donc, elle montre l'Unreal Engine 3, du Gears of War. Et voilà, et en fait, le truc, c'est que Gears et l'Unreal Engine 3, il faut savoir que c'est des jeux genre Gears 3 ou Mirror's Edge vont tourner sur ce moteur. Beaucoup de jeux vont tourner avec l'Unreal 3. Donc, ça pose un peu les attentes de la génération, qui était aussi un petit peu drôle vu que Xbox c'était Radeon à ce moment-là, donc encore AMD.
Ouais.
Là où du coup, PlayStation c'était Nvidia. Mais en fait, le problème, c'est que le GPU d'Nvidia, donc le processeur graphique, va avoir pas mal de retard.
Celui de Xbox.
Il aurait été à peu près rushé des documents que j'ai pu trouver et tout. Donc, il n'était pas aussi puissant. Et surtout, en fait, du coup, Ken Kutaragi, voilà, qui l'a conceptualisé, il voulait aussi un peu renouveler le hardware. Et donc, la balance entre processeur et processeur graphique, elle était grave différente. Elle avait vachement changé. Ils avaient appelé un processeur, le processeur Cell, qui, vraiment été galère d'optimisation. Si tu veux en parler un peu, mais les développeurs galéraient dessus.
C'était ça le problème de cette génération pour Sony. Surtout au début, c'était vraiment une catastrophe. Ouais. Vraiment, où en fait, en gros, pour vous illustrer un peu le truc, c'est que aujourd'hui, par exemple, la PS5 et la Xbox Series sont assez similaires d'un point de vue technique.
Ouais.
Tous les deux, c'est des produits Nvidia, AMD, pardon. AMD. Mais là, vraiment, on a deux consoles qui sont construites de manière vraiment différente. Et on est vraiment à l'opposé de ce que faisait Sony avant. Quand je vous disais tout à l'heure, voilà, que la PS1 était une console qui était pensée pour les développeurs, flexible, techniquement parlant. Les développeurs n'ont pas de soucis à développer dessus. Donc, ça ne les limitait pas dans leur créativité, par exemple. Là, la PS3, c'est son plus gros souci à l'époque, surtout pour les jeux éditeurs tiers qui vont tourner sur Unreal Engine 3 pour la grande majorité. C'est une galère. Et c'est pour ça que du coup, quand on va avoir un jeu éditeur tiers, je sais pas moi, genre Ubisoft...
Ouais, c'est ça, il va en avoir pas mal, ouais.
Capcom,
Rockstar aussi.
Rockstar, très souvent, c'était mieux d'avoir la version 360 du jeu était meilleure. Pourquoi ? Parce que la 360 était certes moins puissante en termes de puissance brute que la PlayStation 3, mais derrière...
C'était bien mieux équilibré, en fait.
Bien mieux équilibré et flexible, et les développeurs avaient juste jonglé beaucoup mieux avec la Xbox 360 plutôt qu'avec une PlayStation 3.
Et du coup, le souci, c'est que il va y avoir un rêve, genre une promesse. Même, c'est vraiment le côté multimédia. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas trop présenté, mais la PS2 et PS1, un des gros arguments marketing, et même plutôt le côté un peu marque PlayStation, c'était elle a sa place dans le salon. C'est vraiment l'objet. Si vous avez une télé, vous avez un truc, elle sera dans votre salon. La PS3, c'est vachement assumé là-dessus avec le côté Blu-ray. Et du coup, ils disent tout de suite, peut-être un peu trop en avance sur son temps, mais moi, je trouve que c'est plus une erreur du marketing, c'est qu'ils promettent de la 1080p partout. Si vous êtes jeune, genre vraiment très jeune, vous devez quand même vous rendre compte que tous les jeux ne sont pas en 1080p sur la PS4 et la Xbox One.
Oui. Moi, je veux dire, le lecteur Blu-ray de la PS3 était vraiment hyper performant.
Ah ouais, non, il est peut-être... Mais c'est ça le truc, c'est que du coup, en 2005-2006, ils sont là en mode, ouais, on va vous parler de Blu-ray, on va voir les 1080p. Et en fait, ils étaient là en mode, ouais, le rêve de la 1080p. Et le souci de ça, c'est que ça a tellement bridé le développement des jeux sur les versions PS3, c'est-à-dire qu'il y a eu des jeux à leur sortie, genre Ridge Racer, je crois que c'est le 5 qui sort sur PS3, 1080p, 60fps, un jeu hyper impressionnant encore aujourd'hui. Mais par exemple, Call of Duty 3 et Madden 07, ils tournaient à 30fps, alors que sur Xbox, ils tournaient à 60fps. Est-ce que vous imaginez jouer à COD, quand même un jeu FPS multijoueur assez vénère, à 30fps, alors qu'ils auraient pu viser de la 480p ou aller de la 720p. Les CRT étaient encore assez populaires, mais ils ont voulu mettre ça en avant. Et c'est en même temps un peu le blâme qu'on peut leur faire, mais c'est aussi ce qui fait la réussite de la PS1 à la PS2, c'est que c'est des objets tellement pointus techniquement, et que là, je pense qu'après, on peut en parler un peu ouvertement, mais moi, ce que je retiens un peu de ces trois générations-là, parce que la PS3, en gros, c'est un four, elle est vendue 600 balles. Vraiment, c'est la génération où Xbox arrive à gagner du terrain et à faire jeu égal aux États-Unis avec Sony. En France, Sony domine quand même, mais ça s'est tellement resserré. Et en fait, la génération PS4 Xbox One, c'est là où on aurait dû se dire si Xbox jouait les bonnes cartes, il pouvait passer devant Sony. Mais c'est fou à quel point, ouais, ça a été au départ.
Un moment de doute un peu dans le... Parce que Nintendo, on n'en parle pas, mais eux, en fait, ils font la Wii. Et la Wii, c'est-à-dire qu'elle a tout ravagé sur son passage, ça a été un monstre. Mais malgré ça, la PS3, je ne sais pas si je spoil ce que tu vas dire, la fin de gêne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire on vous dit tout ça, mais aujourd'hui, la PS3 est plus vendue que la 360. La PS3 est plus vendue que la 360. Pourquoi ? Parce que Xbox aussi, de son côté, il y a eu un excellent début de gêne. Mais à la fin, il y a eu une perte de souffle là où Sony, en fait, reprenait un peu... En fait, ça expliquait un peu les rapports de force qu'on allait avoir dans la génération PS4 One. La PS3, c'est-à-dire que la console était vendue 500 balles ?
500, 600 euros.
500, voilà. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher pour une console qu'on vous a dit qui était moins performante. Mais la fin de gêne laissait quand même laisser penser que la PS4 allait vraiment revenir en force. Là, vraiment, la fin de gêne, la PS3 reste quand même sur un... On a quand même des gros titres, je pense à Uncharted 3.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a eu Uncharted 1, Uncharted 2 qui est un magnum opus, mais le 3, il met encore plus une claque visuelle que le deuxième. Et on a Last of Us.
Ah oui. Non, mais même ça, même tu vois, même dans les jeux éditeurs tiers, pardon, t'as des Tomb Raider, t'as des Far Cry 3, ouais. Ils t'ont peut-être pas super bien, mais c'est, visuellement, c'est quand même des grosses claques. Du côté d'Ubisoft, il y avait vraiment des jeux visuellement très qualitatifs. Donc, la PS3, c'est une génération qui commence très mal, je trouve, mais qui a la plus grosse évolution sur une seule gêne. Et tu vois, le début de la génération et la fin de la génération, le jeu vidéo a changé. Parce que la PS2, c'est quand même que 5 ans, entre guillemets. C'est vraiment 2001-2006. Et ouais, les jeux sont super léchés, vraiment la console elle se tient bien, elle est solide sur ses appuis. La PS3 elle a une pérennité entre guillemets d'exclusivité où d'un coup on se dit putain, tu regardes un jeu début de gêne, le premier Uncharted, et tu regardes Uncharted 3, t'as l'impression qu'il y a une console entre les deux quoi, et c'est ça qui est assez fou. Donc moi non, je pense juste que là j'aimerais un peu embrayer parce que PS4, PS5 je trouve un peu unifié. Je sais pas si on peut vraiment faire un...
Le problème c'est la PS5, on a pas assez... Faudrait que la gêne PS5 se termine pour qu'on puisse vraiment juger la gêne PS5 en tant que telle.
Je sais qu'on s'était noté une question, et moi je te laisserai peut-être amorcer ça pour arriver vers la conclusion un peu de l'épisode, c'est Voilà, la PS4, c'est une très bonne console, elle s'est très bien vendue. On n'a pas besoin de faire le retour sur les annonces. Tout le monde connaît à peu près le catalogue.
Longévité de dingue.
Voilà. La PS5, elle est actuellement là. Il y a beaucoup de débats autour. Donc, la question qu'on se posait, c'était ouais, est-ce qu'il reste de la PlayStation 1 dans la PS5? Et du coup, qu'est-ce que c'est que Sony actuellement pour toi, du coup, Souli? Je te laisserai commencer.
Ah. Non, mais je vais te laisser commencer. Genre, vas-y. Est-ce qu'il y a de la PlayStation 1 dans la PlayStation 5 ou pas?
Alors, moi, je me suis noté non. Mais arrête-moi si je me trompe. Est-ce que la PS5, elle peut lire encore les CD?
Les CD?
Ouais. Il n'y a pas un truc...
Non, il me semble que les CD, elle ne peut plus les lire.
Et c'est un peu ce truc-là où, pour moi, c'est la rupture qui marque vraiment le tournant chez Sony. C'est-à-dire que la PS1, PS2, elles sont rétrocompatibles. La PS3 était rétrocompatible, mais ça marchait super mal. En tout cas, au tout début, apparemment, vraiment, les jeux PS2 étaient mal upscale. Où ils étaient plus moches que sur une PS2 de base. PS4, ça a fait une rupture totale avec le cloud. Et PS5, pareil, c'est que PS5, PS4, ça se joue. Mais tout ce qui est avant la PS3, que dalle. Donc, pour moi, une console qui était autant appuyée sur le CD, qui a autant une histoire comme ça forte avec le support, ça triste qu'elle s'en sépare. Et moi, ma conclusion, c'est que j'aime PlayStation. Enfin, j'ai appris à aimer PlayStation avec le temps. Pour l'histoire, j'ai revendu ma Series X là, il y a quelques jours, 2-3 jours. Parce que je me suis rendu compte que s'il y a bien une console de salon que je veux garder, c'est ma PS5. Ma Xbox ne me servait plus à grand-chose. J'ai ma Xbox One, j'ai ma 360, ça va très bien. Comme dirait Don Matrick, si je voulais jouer hors ligne, j'ai ma 360, tout va bien.
Du coup, il avait raison.
Finalement, j'ai donné raison. Et ouais, c'est qu'en fait, la PlayStation, moi, ce que j'apprécie, c'est le côté innovant comme Nintendo, c'est que chaque PlayStation a eu un truc en plus. Il y a eu la manette avec les vibrations, il y a eu la DualShock après avec les joysticks, il y a eu le gyroscope que ça se fait contrôler. Et il y a un côté gadget qui est hyper présent dans chaque console. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on disait « Ah, mais tu joues à la PlayStation pour parler de toutes les consoles de jeux vidéo. » Comme on pouvait dire « Ah, mais il joue à la Nintendo.
»
C'est devenu aussi fort comme image de marque. Et il y a eu toujours un côté innovant. Quand la Wii était présente avec le motion sensor, donc on joue avec les mains, on a des nunchuk et des avec la manette de la Wii, la Wii Remote. Bah, Sony, ils font quoi? Ils amènent le PS Move. Et le PS Move, je revoyais un peu ses caractéristiques, c'est hyper en avance sur son temps, en fait. Parce que vraiment, ça ressemble de fou à tout ce qu'on va voir pour les manettes pour jouer à la VR. C'est vraiment très proche de ça.
Mais c'est tellement en avance sur son temps que c'est limite obsolète.
Hein, c'est ça, en fait. C'est que du coup, tout le monde a un peu oublié le PS Move ou le iToy,
le 6-axis de la DualShock Test.
Ouais. Mais c'est des objets qui étaient hyper, hyper en avance sur leur temps. Pareil, Xbox et Kinect, que c'est ça qui est drôle. C'est que Kinect, ça a fait un bide avec la Xbox One, mais à la base, c'est une super idée de se dire « Ah, mais plutôt que de... jouer avec ta manette, tel truc, non, tu le fais avec ta main et ça marchera. » C'est pour ça que Kinect sur la 360, ça a été un vrai succès. Sur la One, beaucoup moins. Et donc, ma conclusion, moi, pour le côté un peu PlayStation, c'est que je trouve que ce qui est cool avec PlayStation, c'est que le high-tech donne envie. C'est vraiment, genre, même s'il n'y a pas de jeu, on est là en mode, non, mais on veut une PlayStation, en fait. Il y a une popularité de la marque toujours présente, qui est que c'est une console de jeu et un appareil multimédia. Donc, ouais, genre pour moi, il en reste peut-être un petit peu, mais maintenant, la PlayStation, c'est devenu autre chose. C'est que, voilà, il y a le Blu-ray, les applications comme Netflix, Prime Video, qui montrent qu'elle est toujours au centre de l'expérience de salon. Mais comme elle n'est plus les disques, qu'ils ont quand même co-inventé du coup avec Philips, comme on l'a dit, que la rétrocompatibilité, c'est plus trop là. Moi, je trouve que c'est une marque qui a perdu un peu de son aura, mais il lui en reste. Moi, je trouve.
La PS6 va vraiment être un enjeu majeur sur l'image de marque PlayStation. Moi, pour répondre à cette question, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, vraiment. Mais il y a un truc sur lequel je ne peux pas retirer la PlayStation qui est là depuis la PS1, c'est comment Sony laisse toujours la place aux jeux vidéo. Sony n'est pas un constructeur qui fait du jeu vidéo à la base. Et on le voit encore aujourd'hui, ça a été... on l'a vu sur PS1, PS2, surtout sur PS4, qui a été vraiment un retour en force fou, avec les PS Studios. Mais PlayStation, c'est-à-dire... Et en fait, on l'a vu comment parfois ils retombent dans leur travers avec la PS3, la PS3. Et un peu, j'ai un peu limite l'impression que la PS5, c'est un peu une PS3 2, un peu. Où en fait, Sony prend à toujours un moment où ils prennent la grosse tête. Et en fait, ils ont l'impression que PlayStation est plus important que tout le reste.
Oui,
en fait.
Oui.
Et ils oublient à la base ce que fait l'essence même du jeu vidéo et de PlayStation, c'est la qualité des jeux de base.
Oui.
La force de la PS1 et la PS2, on l'a dit, c'est le catalogue qui est absolument oufissime et qui a oblitérer la concurrence, et la concurrence était de niveau. On parle d'une génération, la sixième génération, où il y a quatre concurrents sur le même marché, et c'est un moment où même avec quatre concurrents, Sony a tout ravagé. Pourquoi? Parce que ils ont un catalogue absolument dingue. Et je pense que c'est ça à la base de la PlayStation. On peut dire plein de choses. Elle lit des CD, elle fait plein de trucs, elle en avance, elle est pas chère, mais les meilleurs jeux sont sur PlayStation.
Ça a été le cas pour la PS1, la PS2. Sur PS3, ça a été compliqué. Et on l'a vu avec PS4, comment Sony, à chaque fois, quand je racontais au début, historiquement parlant, comment ils ont su s'approcher de Namco, s'approcher de Capcom, ouais, Squaresoft, ce genre de choses. En mode, Sony, ce qu'ils savent faire, c'est des consoles. Être hyper novateur sur la recherche technique, ce genre de choses. Et derrière, ils ont eu le miracle. C'est vraiment un miracle. C'est vraiment la meilleure chose qui soit arrivée. C'est vraiment le côté de faire dos rond au moment le plus important, le côté humble, en mode, on sait pas faire des JV, on sait faire des machines, on vous laisse carte blanche pour faire absolument n'importe quoi dessus. Et c'est pour ça que, je vais le dire, la génération PS1, peut-être que c'est la... mon take, mon opinion de tout ça, c'est que je pense que la 5e génération et la 6e génération, du coup, PS1, Sega Saturn, Nintendo 64, PS2, Xbox, GameCube, Dreamcast, donc de 94 à 2005-2006,
ouais.
Je pense qu'on est sur l'âge d'or du jeu vidéo, vraiment, et derrière, je ne peux pas, sur ce moment-là, sur ce laps de temps, l'acteur le plus important, c'est Sony, et derrière, ouais, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est perdu, quand même un peu, mais la chose la plus importante qui fait de Sony, Sony, et de PlayStation, PlayStation, c'est l'endroit où il y a le plus de jeux vidéo, j'ai l'impression vraiment, moi, quand Nintendo, bien évidemment, ils sont là, ils sont hyper puissants, mais je pense que ce qu'il y a toujours en plus, voilà, en parallèle, ça a été le plus gros problème pour Xbox. Ça a été toujours l'enjeu, les jeux. Et en fait, Sony, c'est ça, c'est qu'ils peuvent faire de la merde, vendre une PS5 Pro à 800 balles, vendre je sais pas quoi, genre vraiment une catastrophe, avoir le PSN qui bug pendant plus de 24 heures, tout ça. Mais derrière, si Sony, derrière, il me propose une console où il y a le plus de jeux, où il y a toujours les meilleures propositions. En fait, je me rends compte que j'irai toujours, et je pense que la PS6, il y a un véritable enjeu, parce que j'ai l'impression que ce petit truc-là, il commence petit à petit à être remis en question. Donc voilà.
Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Après, il y a un truc comme ça avec la génération actuelle de consoles. Enfin, le paradigme vraiment sur la PS5 et l'idée où on se dit, ah, c'est un truc qui n'a pas forcément de jeu, elle en a. Mais en fait, je ne sais pas à quoi va ressembler l'avenir. C'est ça, c'est comme toi, je ne sais pas à quoi va ressembler l'avenir de la PS6. Parce que l'industrie aussi, elle a tellement changé. Moi, je sais que, enfin, tu le sais, et je le dis souvent, que voilà, moi, ma génération préférée pour les titres, vraiment, c'est PS3 360. Parce que t'avais aussi la Wii en face. C'est vraiment, genre, super sur l'évolution des titres qu'on voit, là, comment la 3D évolue. Je trouve que ça va hyper vite. On est un peu une sorte de. Un surplace, en fait. Je pense que c'est pas pour rien que là, on fait une sorte de gloobie-boulga PS4, PS5. C'est que c'est une continuité. Et que foncièrement, les stratégies, en tout cas commerciales, elles sont quasiment les mêmes. Au début, ça a un peu changé pour la PS5, on s'est dit, ah, peut-être les jeux à service, peut-être qu'on va mettre un peu moins de côté.
Jim Ryan est parti.
Voilà, donc avant qu'il restait encore Jim Ryan, il y avait cette idée-là de se dire, un multijoueur The Last of Us, un multijoueur Horizon, un multijoueur Spider-Man, tout est annulé.
God of War,
tout a été annulé là. On sait que tout l'argent a été balancé par la fenêtre pour rien.
Et du coup, là, l'idée, c'est, ouais, revenons à des expériences premium. Et je pense que c'est le mot-là qui définit vraiment PlayStation, c'est que c'est premium. C'est un objet qu'on veut, c'est comme un iPhone. Ça a perdu un peu de son aura. Mais il y a 10 ans, on demandait un téléphone. Ah, c'est trop cher et tout. Mais tout le monde voulait un iPhone. Tout le monde voulait l'iPhone 4S, le 5, même le 6 encore. Et je pense que PlayStation a ce truc où si on voulait une console de jeu, c'était cool d'avoir une PlayStation.
Ouais.
C'est pas cool d'avoir une GameCube. C'est cool une GameCube et tout, même une Switch. Mais elle n'a pas ce rapport.
Les cours de récré.
C'est ça. Elle n'a pas ce rapport vraiment au cool. Je pense que c'est vraiment ça. Parce qu'une PlayStation, et là, tu peux jouer à DBZ, Tenkaichi Budokai, comme ça.
Regardez le vidéoclub de Joe Lagreen, qui est pas un gamer, qui est un rappeur, ça et tout, mais il a dit un truc tout bête, c'est qu'il disait, ouais, à l'époque, les cours de récré, il fallait avoir une PlayStation. Tu vois. T'avais peut-être la Wii, la GameCube, mais le truc cool, c'était vraiment la PlayStation.
Voilà. Et du coup, ouais, je pense que c'est, pour conclure là-dessus, voilà, PlayStation, ça reste une marque extrêmement importante, qui, même si elle a perdu son aura, en a toujours, qui est vraiment un acteur hyper influent dans le jeu vidéo, et on espère que ça va rester le cas. Et je pense vraiment que la plus grande leçon qu'on peut tirer de PlayStation et qu'aurait dû tirer Microsoft de ça,
c'est oui, les jeux, c'est important. Et en soi, on sait qu'il y a des arguments pour dire la PlayStation, même sans jeu, elle se vend. C'est vrai, c'est un bel objet. La PS1, la PS2, c'est un bel objet. Mais sur la durée, sur la pérennité de la marque, si la PS2, elle était aussi intéressante, c'est qu'elle était rétro-compatible avec la PS1 qui s'est vendue par palette. Tu te dis, ah, mais moi, je veux jouer encore à ces jeux-là. T'as ta PS2. Et en plus, t'as tes continuités.
PS4, PS5, pareil. God of War, Spider-Man, ça sort sur PS4, c'est des bangers absolus, on va dire. La PS5, elle arrive, qu'est-ce qu'elle te promet ? Tu vas pouvoir jouer à la suite. T'auras ton Spider-Man 2, t'auras ton God of War Ragnarok. tu peux continuer ces expériences. C'est comme HBO, c'est comme un gros éditeur dans le cinéma, qui te promet une suite à un film, tu te dis, évidemment, je vais aller voir la suite, j'ai envie. Donc, si on te dit, le seul moyen de le faire, c'est sur PlayStation, tu vas l'acheter.
Maintenant, les jeux sortent sur PC. Ils ont annoncé l'idée qu'ils allaient peut-être rapprocher les sorties PC des jeux PlayStation. Mais les jeux, voilà, sur le PS Plus Premium, il n'y a toujours pas les jeux Day One, genre God of War, Ragnarok ou autre. C'était vraiment en mode, tu le veux, il faut l'acheter en disque ou sur le store.
Donc, ils ont encore cette place-là pour le côté événementiel de la marque. Dire, un jeu sort, c'est un événement, on va placarder des affiches en 4x3, on va faire des pubs de ouf. Et je me dis, moi, c'est peut-être ma crainte, c'est à voir comment leur modèle économique va changer. Mais j'espère qu'ils ne vont pas se dire que Microsoft a fait un truc sympa parce que c'est pas le cas. Vraiment, Microsoft, depuis la Xbox One, ils se sont dit, OK, les consoles, c'est fini, on ne peut plus en faire. Et au lieu de faire comme Sega, de devenir que éditeur, eux, ils disent, on peut devenir le Netflix du jeu vidéo. Qui a des avantages et qui, je pense aussi, a énormément de désavantages plus le temps avance.
Réel.
Voilà.
Je pense qu'on a fait le tour. Ça a été un long tour de circuit. On est passé, voilà, on a fait 30 ans d'histoire. En tout cas, joyeux anniversaire PlayStation. Faites-nous des jeux, continuez. Voilà, il y a eu Returnal là, qui est sorti en début de gen. C'était un bon espoir pour la suite.
Ouais.
Intergalactic, s'il vous plaît, faites un excellent jeu. S'en supplie. Faites le retour de Naughty Dog, là, ça va être trop bien. C'était un super épisode.
Ouais.
Hors série d'une heure, ça faisait longtemps. Sur ce, amusez-vous bien, jouez à des jeux vidéo, que ce soit sur Nintendo, sur Xbox, sur PC, sur Game Boy, sur ce que vous voulez sur votre téléphone aussi. En tout cas, c'était RNG, Radio Campus Paris 93.9 FM, Spotify, Apple Podcast, TikTok, Instagram. Ulysse, merci.
Merci à toi, Soul.
Et à la prochaine, bisous, ciao.
Sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG. First, the basics of particle blast deflection. Dude, I could be gaming.